Il est 9h40, une semaine d'Instant M, demandez le programme.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Éloge ce matin du petit écran. On peut être comme moi, bac plus 5, et avoir quasi arrêté l'histoire en terminale. On peut être sorti du lycée en ayant peu ou rien compris au Moyen-Âge, aux révolutions du 19e, aux luttes fratricides de la résistance, à l'Indochine, aux années de plomb. Et on peut avoir appris cela, du moins commencer à l'apprendre en regardant la télé. Les 1001 films d'histoire que financent nos chaînes publiques forment un inestimable outil pédagogique qui de surcroît ne se cantonne pas à la dramatisation d'événements prédigérés. Le documentaire suppose le regard d'un auteur qui vous donne à voir l'histoire au-delà des mythologies et des raccourcis de la mémoire. Demain soir, sur Arte, Espagne 1936, la tragédie des brigades internationales, une somme vertigineuse d'archives, des hommes et des idées que le monde entier a laissé massacrer. Bonjour Patrick Rothman.
Bonjour.
L'Instant M, c'est le rendez-vous média de France Inter.
Ce week-end, le paysage audiovisuel américain a changé de visage. Rachat colossal, 100 milliards de dollars. Celui de Time Warner, propriétaire de CNN, HBO et des studios de ciné Warner Bros. Par AT&T, le géant des télécoms. C'est un peu comme si, toute proportion gardée, Orange rachetait chez nous Vivendi, la maison mère de Canal+. Je me permets cette comparaison puisque les experts envisagent parfaitement que cela puisse se produire en France. Alors l'idée, c'est que les fournisseurs internet et les fournisseurs de téléphone avalent des contenus à faire circuler dans leurs tuyaux. Or, AT&T vient de mettre la main sur le plus gros catalogue télé de sport, de séries, HBO c'est Game of Thrones ou Les Sopranos, et de cinéma. iTélé, toujours en grève, il était prévu déjà depuis un moment que la rédaction du quotidien gratuit Direct Matin rejoigne celle d'iTélé, les deux appartenant à Vincent Bolloré. Mais le déménagement a été précipité par la direction. Les salariés de la chaîne Info l'ont découvert ce week-end et l'ont vécu comme un coup de force. Sur la façade de leur siège, une enseigne annonçant, je cite, la News Factory a été accrochée à la va-vite. Plusieurs lettres sont tombées. Tristement symbolique, la photo a fait le tour de la presse et des réseaux. Patrick Rothman, invité de l'Instant M. 3 ans de travail pour passer au crible les archives de la guerre d'Espagne et pas n'importe quelle archive. Un tournant. La guerre civile espagnole fut, dites-vous, le premier conflit photographié jour après jour. Alors voilà, les combattants américains de la brigade Lincoln chantent leur victoire à Jarama. Le photographe français Henri Cartier-Bresson les immortalise sur pellicule. Écoutez-les à défaut de pouvoir regarder.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell.
C'est beau, hein?
C'est très beau.
C'est très très beau.
C'est émouvant.
Ouais, c'est très émouvant. Robert Capa, le photographe français, a dit de la guerre d'Espagne, une cause sans image n'est pas seulement une cause oubliée, c'est une cause perdue. Et oui, c'est un tournant, Patrick Rothman.
Oui, il y a eu effectivement un certain nombre de photoreporters et de grands photoreporters qui ont couvert cette guerre. Donc dans mon film, j'en prends deux parce que c'est un couple mythique, c'est Robert Capa et Gerda Taro qui ont une histoire d'amour entre eux et qui sont en plus de formidables photographes.
Gerda Taro, on la connaît très mal.
On la connaît très mal.
Elle est morte pendant la guerre d'Espagne.
Elle est morte.
C'était amour de Capa.
Elle a été écrasée par un char au cours d'une de ces batailles que je raconte dans Bataille obscure, acharnée, terrible, que je raconte dans mon film. Effectivement, c'était une jeune femme hein, de 26-27 ans et qui a couvert la guerre. Et ce qu'on voit en fait, et ce que je montre à travers le film, c'est parce que j'ai passé des heures et des heures sur les planches contact de Kappa et Taro, comme on dit. Et on voit à quel point Kappa a été au cœur de toutes ces batailles.
C'est-à-dire toutes,
c'est tout. Il est là tout le temps, tout le temps.
Tout, il pénètre dans Bilbao, Taro photographiera les réfugiés de Malaga, Kappa est à la bataille de Brunete, justement. Il est à la fin le désastre de l'Èbre.
Ouais.
Tout, il est au front, il est au plus près. Vous dites d'ailleurs, il a signé les photographies de guerre les plus réalistes.
Oui, parce qu'il partait, par exemple, à Teruel, qui est une de ces batailles terribles, affreuses dont je parlais. Il est avec un groupe de dynamiteurs qui rentrent dans la ville et qui se frayent un passage à coups de mitraille, enfin d'explosifs. Et il y a des planches contact absolument incroyables que j'utilise dans le film. Enfin, je m'empresse d'ajouter qu'il n'y a pas que des photos dans le film. Il y a énormément d'images d'archives animées.
C'est quand même très intéressant parce que la guerre civile et la cause républicaine exercent un irrésistible pouvoir de fascination. Ça, c'est vous qui le dites. Vous dites que ça attire les écrivains, les poètes, les cinéastes, et on s'en souvient évidemment parce que ça a laissé des traces absolument magnifiques. Mais c'est toute l'ambiguïté à la fois de ce qui a été fourni comme document et comme mémoire sur la guerre d'Espagne, et en même temps la façon dont ça se mélange avec une certaine forme de mythologie, parce qu'en même temps toute la presse était là, tous les grands reporters du monde entier étaient là. Patrick Rothman.
Absolument, c'est une guerre qui était suivie. D'ailleurs, dès les premières heures du putsch, il y a des envoyés spéciaux français. Je montre les lunes de journaux qui suivent la bataille à Barcelone, la bataille à Madrid. Ça fait la une de tous les journaux français. Donc c'est une guerre.
Il y a le correspondant du New York Times, Herbert Matthew, dont vous montrez souvent les photos, qui va côtoyer.
Qui est le grand ami d'Hemingway, qui part avec lui sur à peu près tous les fronts. Et pour l'anecdote, c'est lui qui fera 20 ans plus tard une interview célèbre de Fidel Castro dans la Sierra Maestra en 1958.
Saint-Exupéry est envoyé spécial.
Saint-Exupéry, absolument.
Et alors, en même temps, vous dites, tous ces reporters de guerre sont cornaqués par les services de propagande internationale communiste. Donc là aussi, ça pose la question de ce qu'il en est sorti, de cette couverture à la fois intellectuelle et en même temps journalistique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce personnage, Mikhaïl Koltsov, personnage fascinant de ce conflit?
Oui, je dirais juste en deux phrases en préalable, c'est que la guerre d'Espagne, c'est évidemment une guerre de la liberté contre le fascisme, la démocratie contre la dictature, donc la guerre du camp républicain, du gouvernement républicain qui est le camp légitime élu par les élections contre le putsch militaire. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a aussi au sein du camp républicain...
On va y venir.
Une guerre interne, une guerre civile, en fait, dans la guerre civile.
On va y venir, et justement, Mikhaïl Koltsov joue un rôle très particulier, et c'est un journaliste.
C'est un journaliste qui est envoyé spécial de la Pravda, mais qui est en même temps ami de Staline, et l'œil de Staline en Espagne, et son travail, en quelque sorte, c'est de cornaquer tous ces intellectuels, des gens. Hemingway, qui est un grand naïf, de l'amener sur le front, etc. Donc j'ai retrouvé, avec mes collaboratrice Marie-Hélène Barberis, des images où on voit Koltsov au front, qui parle avec Hemingway, il le trimballe. Finalement, ce qui l'intéresse, c'est que il ait une certaine vision de
la guerre
de cette guerre, et voilà. Et ce qui marche très bien d'ailleurs, parce qu'en fait, le seul écrivain qui va prendre, il y en a deux qui vont prendre leur distance avec cette mythologie de la guerre, c'est Dos Passos.
Mm-hmm. John Dos Passos,
John Dos Passos, qui d'ailleurs va rompre avec Hemingway au cours de cette guerre. Et l'autre, c'est évidemment Orwell, qui arrive critique et qui va repartir encore plus critique qu'il n'était arrivé.
Voilà, alors venons-en justement au rôle des communistes dans la guerre civile espagnole. C'est peut-être une tragédie au sein de la tragédie, et on écoute celle qu'on a appelée la passionnaria espagnole.
Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios, vivan las bravas milicias populares.
No pasarán por la tierra y por el pan, vista frente, pulso firme.
À la tête du Parti communiste espagnol. On le redit, Patrick Rothman, le soulèvement républicain espagnol de 36, ça n'est en rien une révolution bolchévique.
Non, mais même le contraire d'ailleurs, parce que ce qui est étonnant, c'est que le putsch des généraux, le putsch de Franco, va déclencher en fait une révolution sociale qu'il voulait éviter. Et cette révolution sociale, elle est menée en grande partie par les anarchistes. La CNT, le syndicat anarchiste libertaire, regroupe 1,5 million d'adhérents rien qu'en Catalogne. Donc ils contrôlent complètement cette région, ils organisent les services publics, enfin les terres sont expropriées, les usines sont expropriées. C'est peut-être la révolution sociale de l'été 36 en Espagne, la révolution sociale la plus profonde de tout le XXe siècle. Parce qu'il y a la prise en charge par les paysans, les ouvriers de leur propre affaires. Mais ça ne fait pas du tout l'affaire, en fait, du Parti communiste.
Et ça ne fait pas l'affaire du Parti communiste. Le vrai problème aussi, c'est qu'il n'y a personne, aucune grande puissance pour soutenir cette défense républicaine, pour l'armée, pour la financer, et qu'au final, il n'y a que l'Union soviétique qui sera là, d'où l'influence grandissante des communistes dans ce conflit.
Exactement, vous avez bien résumé la situation. Le Parti communiste est minoritaire, mais la seule puissance qui va aider le camp républicain en armes, en chars, en avions, c'est l'Union soviétique, après s'être fait un peu tirer l'oreille. D'ailleurs, c'était pas gratuit, parce qu'en échange de ces armes et ces avions, tout l'or de la Banque d'Espagne a été livré
en... Et là, vous sortez des archives qui sont...
En Union soviétique. Voilà. Et parmi ce que l'Union soviétique envoie, elle envoie des armes, mais elle envoie aussi des conseillers spéciaux de l'ombre. Et elle aussi, c'est le sujet de mon film, elle envoie, le mouvement communiste international crée ces fameuses brigades internationales pour les envoyer en Espagne. Donc ils vont être 35 000, 40 000 sur la durée de la guerre. Ils viennent de plus de 50 pays et ils vont former ces bataillons avec un courage, un altruisme, une générosité incroyable. Bon, pour il faut le dire, mon film le montre et le raconte. Ils vont pour une part être envoyés quand même dans toutes les batailles qui sont atroces.
On va y venir justement à cette grande tragédie, mais d'abord cette tragédie dans la tragédie, parce que l'influence du Parti communiste et de l'Union soviétique va créer des drames épouvantables. C'est-à-dire qu'il va y avoir des purges au sein de ces brigades internationales, il va y avoir des purges au sein de ce soulèvement républicain, il va y avoir des purges comme il y en a eu en Union soviétique. On va arrêter, on va exécuter, on va emprisonner les anarchistes.
Tout ça est tout à fait établi aujourd'hui, parce qu'évidemment, moi je n'invente rien, ce que je raconte dans le film, je n'invente pas. Je me suis appuyé sur des milliers de pages de lecture de tous les historiens qui ont écrit et travaillé sur la guerre d'Espagne. Aujourd'hui, c'est un fait établi. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre ce courant libertaire, anarchiste, dont je parlais tout à l'heure, qui préconisait et qui mettait en avant la révolution sociale, et disons les forces communistes qui pensaient plus à mener la guerre contre Franco, à un moment il y a eu un affrontement qui s'est matérialisé à Barcelone en mai 1937. De cet affrontement dont il y a très peu de traces en images. Ouais. Là, je suis obligé dans le film, je le raconte avec 5 photos, parce qu'il n'y a pas d'images et pas filmé.
Mais enfin, vous racontez aussi très bien que tous les intellectuels, Aragon, Nizan, Octavio Paz, André Malraux, ferment les yeux. Vous dites, André Malraux a préféré l'efficacité à la vérité.
Oui, je pense que la phrase est juste. C'est-à-dire que il considérait, ce qui n'est pas faux non plus d'ailleurs, que le combat contre Franco était le combat essentiel et qu'il ne fallait pas s'arrêter à quelques détails. Si j'ose dire. Ouais. Ces détails, c'était quand même effectivement des prisons spéciales, des exécutions par centaines dans le corps républicain. Le petit parti d'extrême gauche qui était anti-stalinien, qui s'appelait le PUM, a été complètement annihilé. Son président Andrés Nin a été enlevé par les services secrets soviétiques. Il a été torturé, assassiné. Donc tout ça est raconté très bien par George Orwell dans Hommage à la Catalogne, que je ne serait assez recommandé aux lecteurs, parce que c'est vraiment une analyse qui est faite à chaud de cette guerre d'Espagne et des contradictions, de la complexité de cette guerre, qui est absolument remarquable.
Les chansons de la guerre d'Espagne.
Bye.
France, la Grande-Bretagne n'ont pas aidé les républicains ou si peu. En revanche, Hitler et Mussolini ont armé Franco. Il faut que vous racontiez, Patrick Rothman, à quel point ce soulèvement républicain a été écrasé dans le sang. Ça a été un massacre et quelle disproportion militaire on a pu constater sur le terrain.
Oui, la disproportion des forces a été évidente très très vite. J'ai retrouvé, je montre dans le film des images tout à fait étonnantes de ce pont aérien fait avec les avions allemands, juste après le soulèvement, c'est les troupes espagnoles qui sont au Maroc. Elles peuvent pas passer en Espagne parce que le détroit de Gibraltar est contrôlé par les marins qui restent fidèles à la République. Et donc, comment ils vont franchir ce détroit? Par les avions d'Hitler qui envoient tout de suite des avions. Il y a un pont aérien. On voit les images stupéfiantes de milliers et de milliers de soldats franco qui arrivent de cette manière à passer en Espagne. Il y a par ailleurs les 70 000 Italiens suréquipés envoyés.
Il y a la Légion Condor, les troupes d'élite, les avions.
Bombardent Guernica. Donc il y a des chars par
centaines. Parce que Malraux dit dès le départ que la grande faiblesse des républicains, ça va être de manquer d'avions. Avec Jean Moulin, il achète une cinquantaine d'avions, il paye des mercenaires et ça va être l'escadrille espagnole. Ce sera les seuls avions qui vont d'ailleurs très vite tomber.
Jusqu'à l'arrivée des chars soviétiques. Mais pendant le mois cruciaux de l'été 36 où Madrid est directement menacée, c'est sûr que les avions de Malraux ont aidé à ralentir l'avance des forces de Franco. Donc globalement, c'est vrai que le rapport de force militaire était évident pratiquement depuis le début en faveur de Franco.
Et puis l'impréparation, l'amateurisme, l'espèce de romantisme héroïque que vous décrivez jusqu'à la fin. On les a envoyés finalement à la boucherie parce qu'il fallait éblouir le monde entier, parce qu'il fallait donner des actions symboliques.
Voilà, c'est vrai. Donc comme vous le dites, j'écorne un peu la mythologie en racontant tout ça. Mais je pense que 80 ans après, il faut faire de l'histoire et pas de la mythologie. Et l'intérêt de ce type de documentaire, où je pense que les téléspectateurs vont découvrir des images étonnantes, douloureuses, pathétiques, grandioses, lyriques, et c'est de reconstituer, d'essayer de restituer la réalité de ce que fut cette guerre dans toutes ses contradictions et dans toutes ses complexités, et de sortir effectivement de la légende.
De sortir la légende. La fin vous arrache littéralement le ventre et les larmes, la fin de votre film, Patrick Rothman. Ceux qui en sont sortis, ceux qui en sont revenus de cette guerre d'Espagne, ont été accueillis dans des camps de réfugiés. Et c'est derrière les barbelés, dites-vous, qu'ils ont appris le pacte germano-soviétique.
Oui. Ça, c'était une phrase que m'avait dite Georges Champrin il y a quelques années, quand j'avais fait un film sur lui. Je tournais avec lui un film à Buchenwald, et puis on était à Buchenwald. Il me dit, tu te rends compte, il me dit, les gars des Brigades Internationales qui ont été emprisonnés dans les camps français, qui étaient derrière les barbelés, c'est là qu'ils ont appris que ce pourquoi ils s'étaient battus, en fait, le combat contre le fascisme venait d'être
broyé par
le pacte germano-soviétique. Donc c'est pour moi le concentré presque chimique de la tragédie du XXe siècle, cette guerre d'Espagne.
Merci beaucoup Patrick Rothman. La tragédie des Brigades Internationales, c'est demain soir sur Arte. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sonette Villers.
Grand bien vous fasse ce matin.
Comment fonctionne l'homéopathie? On va se demander comment fonctionne cette thérapeutique qui est parfois controversée. Que vous soyez adepte ou non de l'homéopathie, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000.
Voilà, et ce sera juste après les infos.